Limited et chef de rayon au comptoir des Châles, au Petit Saint-Thomas, donc un magasin moyen à Paris avec des employés, salariés. Mais bientôt, le commerce est liquidé, donc il fait faillite, notamment par le problème de fiscalité, comme beaucoup de commerces surtaxés. Après 1848, hein, c'est donc sous la Seconde République, cette généreuse Seconde République, mais voilà, et donc, faillite. Les deux, d'ailleurs, sont chômeurs. Avec sa femme, ils ont toutefois chômeurs, mais économie. 50 000 francs. Ils ont mis déjà de côté, alors, je ne sais pas ce que ça représente, mais ce sont des petites économies quand même, un madeleine, voilà. Et alors, bientôt, Vido, qui est un ami proche, donc il connaît Aristide, va l'embaucher comme associé. Donc il est propriétaire d'un magasin, petit magasin, humble, de 25 mètres carrés. Donc il connaît Aristide, et il lui fait confiance, il connaît le dynamisme du jeune homme. Il l'associe à son petit commerce de mercerie, appelé le Bon Marché. Donc. Et c'est là qu'on retrouve cette banderole que j'évoquais au début. Eh bien, on reprend toute la marchandise qui a cessé de plaire. Ça, c'est une initiative d'Aristide. Mais on verra que Vido ne va pas suivre les ambitions, les idées, l'enthousiasme et l'esprit, je veux dire, d'anticipation d'Aristide. C'est un honnête commerçant, mais conservateur, immobiliste, hein, très scrupuleux, mais à l'ancienne. Et il a peur des innovations de son associé. Donc, à l'époque, les commerces, on pratique d'abord, ils sont spécialisés, je dis, c'est des petites boutiques ou quelques commerces plus importants, mais qui n'ont pas de variété. Hein. Encore une fois, on ne trouve pas tout en un même lieu. Et donc, c'est la pratique du marchandage. Voyez. Les marchandises sont empaquetées, il n'y a pas d'étalage, et puis on négocie avec le client. C'est ce qu'on appelle la surbine. Enfin, il y a une technique, voilà, pour essayer d'arriver. C'est un combat, quoi, entre le client et le vendeur. Alors, la méthode Boussicot, elle est révolutionnaire. Boussicot, donc notre Aristide, va carrément supprimer ça, parce qu'il y avait aussi le racolage, un racolage effréné dans ces boutiques donc du 19e siècle, hein, du début, où on harcelait le client, quoi. Alors il supprime tout ça. L'entrée est libre, ça c'est nouveau. Les étalages sont largement ouverts avec talent. Il y a la vitrine et puis on peut toucher. Donc c'est encore une fois novateur. Les marchandises sont exposées, les prix sont affichés, on négocie pas et on s'aperçoit que ça marche. Les clients reviennent et ils finissent par acheter, quoi. Et puis, encore une fois, il y a une ambiance de décontraction, quoi. Les gens ne sont pas angoissés, si on peut dire. Ils viennent dans le magasin, ils bagnodent, ils achètent parfois ce qu'ils n'ont pas envie d'acheter à l'origine. Voilà. Et donc, c'est une idée. Bonne idée qui fait florès et qui réussit. Et puis il y a le système du rendu. Alors l'affiche, c'est une idée géniale. Donc c'est cette trouvaille de Boussicot. Donc les produits, articles qui ne satisfont pas le client, hein, sont remboursés à condition d'être rendus intacts et puis dans un délai rapproché, ne pas être démodés. Voilà. Et puis c'est les petits prix. Alors on vend pas cher, mais on se rattrape sur la quantité. Alors la marge habituelle dans les boutiques à l'ancienne, c'était 41% de bénéfices. Et là, dans la boutique, ce Bon Marché naissant, on va dire, 13,5% de marge. Mais on vend en quantité. Et donc les stocks s'écoulent très rapidement. Il y a une circulation en moins de 2 mois. Voilà. Et donc, bientôt, succès. Boussicot, qui est l'associé dominant, son confrère, son associé Vido, va bientôt vendre ses parts. Hein. Mais fortune faite, hein, parce qu'il a peur. C'est pas un aventurier. Alors, je me donnais quelques chiffres que j'ai notés. Initialement, alors c'est des francs de l'époque, hein, 450 000 francs. Au bout de 10 ans, progression, c'était 3 millions de francs or. Et alors, je l'ai dit, Vido, le commerçant qui a mis le pied à l'étrier quand même à notre Aristide, il se retire de la course. Hein, et il vend ses parts pour 1,5 million. Progression du chiffre d'affaires, 1863, 7 millions, 1869, 20 millions, et 1877, après la chute de l'Empire, ça sera 80 millions de francs. Et donc, il incorpore les boutiques voisines, on achète les petites boutiques voisines, et bientôt, donc, ça devient peu à peu un monument que ce bon marché qui s'étend par cette variété des articles. On trouve de tout. C'est presque un monument. Au moment de sa grande prospérité, hein, 10-20 ans plus tard, on vient le visiter, après comme on viendra visiter plus tard la Tour Eiffel, mais elle n'existe pas encore. Les touristes étrangers y viennent, voilà. Donc on y vend tout, des chaussures, des vêtements, la mercerie, des articles de cuisine, du mobilier, de la tapisserie. Et donc, il y a des rayons qui sont comme autant, peut-être pratiquement de petites boutiques à l'ancienne, des rayons avec des chefs en jaquette et pantalon rayés, voilà, et puis des commis. Hein. Donc, cette variété, cette multiplicité, cette quantité, circulation rapide et cette liberté d'acheter, eh bien c'est la signature de Boussicault, c'est la modernité ce milieu du 19e siècle. Hein, voilà. Donc c'est le succès les grands magasins vont exister déjà autrefois, mais ils n'ont pas tenu parce qu'ils étaient spécialisés. Il y avait d'autres magasins comme le pauvre diable entre guillemets, le gagne petit, le diable boiteux, les deux magots, le petit Saint Thomas qu'on a vu tout ça ont disparu. Là on est vraiment dans un supermarché. Et d'autres vont donner, comment dire, il va faire des petits, si on peut dire, il va inspirer notre Boussicault du bon marché. On verra que c'est un personnage attachant et intéressant avec sa femme. Nous venons ensuite. Il crée des émules, donc les galeries du Louvre s'ouvrent en 1855, le printemps, ils existent toujours, en 1865. Et c'est un ancien chef de région du bon marché qui va créer le printemps. Hein. Jacques Uzeau. Et puis il y aura la Samaritaine en 1869, c'est Mademoiselle G et Monsieur Cognac, Edmond Cognac, qui travaillait aussi chez Boussicault au bon marché, qui vont créer la Samaritaine. Et puis à l'étranger, on suit l'exemple, USA, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse. Voilà. Donc c'est illustre bien, je trouve, cette période de prospérité économique et commerciale du Second Empire. Autre innovation, les expos de blanc, l'exposition de blanc, puisqu'il a vu la neige en hiver, ça lui a inspiré sur Paris, cette fameuse exposition de blanc. Alors il y a en février, c'est les dentelles et les gants, en mars, c'est les manteaux, etc. Aussi on pratique des soldes d'hiver dès le mois de juin. Et puis il y a un service de livraison. Ça n'existait pas, c'est les fameuses voitures du bon marché qui vont, dit la publicité, aussi loin qu'une Parisienne ne peut habiter. Alors 90 voitures à cheval, bien sûr, rayées de rose et de rouge, 150 chevaux, donc c'est un parc assez important. Et puis c'est la nouveauté, autre trouvaille géniale d'Aristide, c'est la vente sur catalogue, qui permet d'aller en province, de vendre en province par correspondance. Alors le premier catalogue n'a pas d'illustration, hein. Il y a une description des articles, et puis des encouragements. Par exemple, au-dessus de 25 francs d'achat, eh bien l'envoi est gratuit. Alors le chemin de fer là, qui se développe depuis les années 1830-35, bien sûr largement utilisé pour ces transports. Et puis il y aura... donc dans les éditions suivantes, les catalogues vont se peaufiner. Il y aura par exemple Plus tard, les illustrations, bien sûr, notamment avec la photo, et puis les croquis, et puis il y aura aussi des échantillons qui seront joints au catalogue. Et donc, Aristide va bientôt construire un immense magasin, parce que c'était, il avait acheté tous les petits commerces alentour, hein, mais c'était une espèce d'amalgame, d'addition. Et donc là, il va tout raser et construire un immense commerce, une espèce de palais, hein, voilà, du commerce, qui va se substituer au lieu et place des petites boutiques qu'il avait groupées, hein, sous son aile. Et donc tout le quartier entre la rue du Bac, Sèvres, les rues Velpo, Babylone, sera couvert par cet immense, je l'ai dit, cette espèce de palais commercial. 1er février 1869, ça sera la première pierre et l'inauguration en 1872. Alors, la personnalité d'Aristide, c'est début modeste. On l'a vu, hein, il faisait le marchand ambulant quand même, et sa femme, très modeste aussi, hein, on ne peut pas venir de plus bas, on va dire, mais de plus pauvre. Et alors il va mettre en place toute une politique sociale, on l'appellera Aristide le juste. Ça sera la bienveillance. Il y a un petit côté paternaliste, mais c'est quand même mieux que ça. Et puis d'ailleurs, le paternalisme, c'est péjoratif un peu, parce que ça signifie que l'ouvrier est un petit peu l'esclave du patron, quoi, même s'il est bien traité. Là, c'est mieux que ça quand même. Et puis bon, c'est pas non plus que négatif, hein. Et donc, il va instaurer un système social pour ses employés. Dès avant, toute législation en la matière, hein. Avant, ils n'avaient pas de droit, il n'y avait pas de code du travail, hein. C'était un esclavage, il n'y avait pas d'horaire, il y avait parfois le dimanche matin comme jour de congé. Enfin, les vendeurs, notamment dans ces grands magasins, étaient carrément les esclaves. Hein, voilà. Alors il accorde le repos hebdomadaire, les congés annuels, la fermeture du bon marché les jours fériés, un service médical gratuit pour ses salariés, une caisse de retraite et également une cantine gratuite, et puis là, ce qu'on appelle la gelt, c'est-à-dire c'est une participation au bénéfice, hein, voilà, participation. Ils ont, je ne sais pas si c'est des titres, mais enfin, ils ont un certain pourcentage sur les ventes. Alors bien sûr, c'est un encouragement, et parfois, le fruit de cette participation pour le salarié, ça aboutit parfois à doubler le salaire, hein, quand c'est intéressant, plus qu'intéressant. Ils suppriment les amendes pour retard et les remplacent par une sorte de procédure disciplinaire, mais graduée. On commence par des avertissements. Il n'y a pas, comme antérieurement et dans les autres commerces de l'époque, à l'ancienne, eh bien, tout simplement, on sucre les heures, etc. C'est quand même une certaine justice, mais dans un souci, on va dire, bienveillant. La hiérarchie s'installe, qui est basée sur l'ancienneté et aussi sur les mérites. Il y a un amalgame, ancienneté et esprit d'initiative des vendeurs. Et puis, donc, c'est une belle aventure, il faut le dire. Aristide va mourir en 1877, après le Second Empire, peu après le fils unique qu'il a eu avec Eugénie. Alors, Eugénie Marguerite, enfin, sa veuve poursuit l'œuvre, elle poursuit, c'est une femme d'affaires aussi, on le sait, elle s'est formée avec son époux, et donc elle va aussi continuer dans les œuvres de bienfaisance. Elle va créer une société en commandite simple, hein, dont elle sera la gérante, pour associer les employés. Ça sera une sorte de coopérative, mais bon, quoi qu'il en soit, les employés auront leur bon marché, il leur appartiendra. Et elle va, par exemple, ça sera leur maison, voilà. Elle sera mécène et va, par exemple, aider Pasteur dans ses recherches. Elle versera 150 000 francs. Alors, je ne sais pas, on peut supposer que c'est conséquent. 150 000 francs de francs or à Pasteur pour l'aider dans ses recherches. Et à sa mort, elle lègue tous ses biens, puisqu'elle n'a pas d'héritier, à l'assistance publique et à des œuvres caritatives. Voilà. Donc, je pense que c'est une épopée commerciale, on va dire, qui illustre bien peut-être cette possibilité ouverte par le Second Empire. Nous retrouvons, nous parlerons maintenant un peu des hommes d'affaires, en général, des banquiers notamment, notamment la famille Pereire, les frères Pereire, après la pause musicale.